Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Babel Pongo Massimango.
Une inauguration hier de l'université de Kananga par le chef de l'État. C'est la joie pour les étudiants, mais une plaide pour l'octroi de bus pour rejoindre facilement ce site situé à la périphérie de la ville de Kananga. Au Nord Kivu, après plusieurs territoires environnants, c'est désormais la ville de Goma qui se trouve aussi totalement coupée du réseau Vodacom. L'opérateur parle d'un sabotage dans son centre opérationnel de Goma et rassure que ses équipes travaillent pour rétablir la situation. La honte de l'occupation de Goma par l'AFC-M23 et ses conséquences, il en a été question hier dans l'émission Dialogue entre Congolais. Vous suivez ce qu'on dit sur les invités. Madame, Monsieur, bonjour. Le président Félix Antoine Tshisekedi a inauguré hier mardi l'université de Kananga. Ses infrastructures situées au village Katambay comprennent plusieurs bâtiments où l'on retrouve des auditoires, des bureaux, des homes pour étudiants, une bibliothèque ainsi que des restaurants. Satisfaction totale évidemment des étudiants, mais demande de plus pour leur permettre d'atteindre facilement l'université car elle est située dans la périphérie de la ville de Kananga. André Katende Ngalamudume était sur place.
Le nouveau campus de l'UNICAN inauguré a une capacité d'accueil de 3200 étudiants. Il vient renforcer et améliorer la formation de ces derniers et leur évitera de faire des déplacements pour aller dans d'autres universités se trouvant en dehors de la province. Alpho Mehdi et François Chiyoyo, tous étudiants de l'UNICAN, expriment leur satisfaction.
Fatih Bertrand fait vraiment une grande chose parce que ça sera facile de bien étudier.
J'ai une joie immense. On ne sait jamais attendu que ça allait se faire ici, pouvoir étudier comme des étudiants étrangers.
Toutefois, une grande difficulté demeure pour ces étudiants. Le manque des moyens de transport, d'autant plus que l'université est actuellement située dans le village de Katambayi, à environ 12 km du centre-ville. Face à cette situation, il plaide auprès du chef de l'État pour la mise à disposition des bus académiques.
Nous sommes en train d'encourager encore le président, qui ne s'arrête pas encore ici. Il peut aussi améliorer les conditions par rapport aux moyens de transport. On fait les pieds.
À noter que le nouveau campus dispose également des laboratoires et salles machines destinées à la formation pratique des étudiants. Kananga, André Katendengalamoulume, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, le gouverneur de la ville a renforcé les mesures de contrôle des documents des véhicules sur les principales artères. Daniel Bumba annonce par exemple qu'il y a 3 shifts par jour, des contrôleurs qui sortent dès 5h30, la deuxième équipe prend la relève à midi et la troisième commence de 17h jusqu'à minuit. Cependant, certains conducteurs continuent de dénoncer le très mauvais état de route. Cela détruit leur véhicule, bien qu'ils paient les taxes exigées. Écoutons l'un d'eux.
C'est bien bon de nous demander tous ces documents, mais en échange, on doit nous faire des routes, mon frère. Nous avons un problème sérieux de nos routes ici. Nous avons des trous presque partout. Il y a des routes que le gouvernement avait commencé à faire et ça s'arrête en route. Ça ne continue plus. Tout s'est arrêté. Il y a des trous présentement presque partout. Il y a même des endroits où des routes sont impraticables ici, dans la ville-province de Kinshasa. Leur exigence est bonne, mais qu'ils nous fassent quand même des bonnes routes parce que nous sommes en train de perdre des amortisseurs, des rotules. Nous abîmons nos véhicules chaque jour. Or, nous payons des taxes pour que notre État puisse nous construire des routes. Ça nous décourage un peu. On achète tous ces documents exigés par l'État et ça va pour construire des immeubles au lieu de construire des routes.
Une opération de démantèlement des exploitations illicites de bois et de charbon de bois est en cours depuis dimanche dernier dans le parc national de Virunga à Beni au Nord Kivu. Elle est menée par les gardes du parc en collaboration avec les services de sécurité de la province. Sur l'axe Beni-Kassindi, des motos transportant des sacs de charbon de bois ainsi que des camions chargés de planches en provenance des localités riveraines du parc sont systématiquement interceptés. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, cette opération vise à protéger la biodiversité et à rétablir l'autorité de l'État dans les zones protégées. Le chargé de communication de l'ICCN, Bienvenue Bouende, explique ce qu'il en est au téléphone de Marc Maroufimbo.
D'abord, la carbonisation et la coupe de bois sont strictement interdites dans les aires protégées, en l'occurrence le parc national de Virunga, et constituent des infractions qui sont punies par la loi 14 relative à la conservation de la nature. Oui, il y a des opérations menées par l'ICCN actuellement avec l'appui d'autres services provinciaux de sécurité et de justice. Cette opération vise à faire taire les bruits des tronçonneuses qui deviennent assourdissants dans les lits versant de la sémouliki. La destruction de la biodiversité dans cette zone prend des proportions inquiétantes, qu'il est devenu impératif et urgent que l'ICCN agisse pour décourager les auteurs de ces actes répréhensibles, mais aussi rétablir l'autorité de l'État dans cette zone. Le message, c'est d'appeler la population à la vigilance, afin de ne pas se retrouver en conflit avec la loi et subir sa rigueur. Enfin, c'est de rappeler la responsabilité de tous les riverains dans la préservation de ces patrimoines que nous avons en commun, qui est le parc national de Virunga. Le détruire revient à fragiliser notre écosystème vital.
La société civile du Congo, Sosiko Antenne de Beni, dénonce cette opération qu'elle qualifie de tracasserie de la part des gardes du parc. De leur côté, les chefs de localité concernés estiment qu'un dialogue entre les agriculteurs, les exploitants de bois et de charbon de bois et les autorités du parc est indispensable pour parvenir à une solution durable et pacifique. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Après plusieurs territoires environnants, c'est désormais la ville de Goma qui se retrouve depuis lundi totalement coupée du réseau Vodacom. L'opérateur télécom affirme que la coupure est due à une intrusion d'inconnus dans son centre opérationnel de Goma, entraînant la désactivation complète de ses systèmes. Dans un communiqué de presse, Vodacom Congo indique que les assaillants ont pris le contrôle de ses installations lundi, provoquant une interruption totale des services voix, SMS, Internet et Mobile Money. Cette panne vient aggraver la situation déjà critique dans plusieurs territoire voisin, privé de réseau depuis plus d'une semaine. Dans la localité de Pinga, territoire de Walikale, cette coupure provoque de lourdes conséquences socio-économiques. Le modérateur du cadre interpaysan pour la transformation des conflits, Julien Bunda, alerte sur l'impossibilité pour de nombreux acteurs locaux d'accéder à leur argent via Mobile Money. Il appelle à une intervention urgente des autorités congolaises. Julien Bunda, joint par Bernard Nyangi.
Nous passons pour cette alerte liée au problème du non-rétablissement du réseau Vodacom dans la localité de Pinga. Et cette fois-ci, ça touche aussi l'agglomération de Kibua et ses environs. Actuellement, les enseignants du territoire de Walikale, les personnels de santé de la zone de santé de Pinga sont payés par la voie Mobile Money. À part ça, il y a d'autres petites activités qui se font, notamment des petites transactions par M-Pesa, qui contribue régulièrement dans la vie quotidienne, positivement sur l'impact de la population dans ces zones. C'est ainsi que le CITC Pinga présente ce plaidoyer afin que le gouvernement provincial et national puisse mobiliser d'autres compagnies de communication, notamment Orange, Airtel, pour renforcer Vodacom dans la contrée de Pinga et de Kibua, afin justement de faire une synergie communicationnelle quant à ces.
Vodacom Congo assure que ses équipes techniques sont mobilisées pour établir les services dans les meilleurs délais. L'incident du Goma a des répercussions dans plusieurs provinces de l'est du pays. Nous restons dans le Nord Kivu pour vous signaler que 6 jeunes ont été arrêtés hier mardi à Beni, chef-lieu provisoire de la province, lors d'une manifestation du mouvement Génération Z. L'action marquait le premier anniversaire de l'occupation de Goma par l'AFC 1-23. Les manifestants expliquent vouloir attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la nécessité de respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à préserver la paix dans la région des Grands Lacs. L'un d'eux, parlant sous anonymat au micro de Radio Capi, dénonce l'intervention policière et réclame la libération de ses camarades détenus au commissariat urbain.
C'était une activité purement pacifique. Nous déplorons et nous condamnons l'ajustement incivique de nos policiers qui viennent de faire de la répression sanglante de cette manifestation. Il y a nos collègues qui viennent d'être interpellés à la mairie. Nous ne savons pas si notre police est là pour la complaisance ou bien si elle est là pour jouer au professionnalisme. Nous sommes en train de plaider plus de 9000 personnes massacrées par l'armée rwandaise à Goma. Nous sommes en train de plaider plus de millions de personnes victimes des massacres des ZDF Nalu ici dans le Grand Nord. Mais malheureusement, c'est très déplorable de voir que certains policiers mal intentionnés sont en train de réprimer une activité de mémoire. Ça, c'est un acte de mémoire. Ça, c'est une manifestation de résilience et de solidarité. Nous solidarisons avec la population de Goma qui est prise en otage par l'armée rwandaise en ce moment même. La constitution de notre pays doit être respectée. Et c'est pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que ces gens qui viennent de réprimer d'une manière brutale les manifestants puissent répondre de leurs actes devant la justice.
Nous n'avons pas encore obtenu la réaction des responsables de la police à Beni. En Ituri, plusieurs villages du territoire d'Irumu continuent de se vider de leurs habitants. C'est à la suite des attaques répétées des rebelles ADF contre les populations civiles. Lundi, les villages de Kasoko et Manzebi ont de nouveau été le théâtre des affrontements entre la force coalisée FRDC, armée ougandaise, combattant ADF. Le bilan de ces accrochages n'est pas encore connu. Cette situation entraîne une paralysie progressive des activités socio-économiques dans la zone, rapporte l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme. Le point avec Jean-Claude Loki.
Après une longue période d'accalmie observée dans la région, environ 115% des habitants avaient regagné leur village, principalement pour reprendre des activités champêtres. Cependant, la reprise des hostilités a contraint une grande partie de la population à fuir de nouveau pour se mettre à l'abri. Ces familles quittent notamment les villages de Mambelinga, Bonasura et Ndimo pour se diriger vers la province voisine du Nord Kivu, explique Christophe Mnyanderu, responsable territorial de l'ONG CRDH. Sur les 115% de retournés, seuls 35% seraient encore présents dans la zone, précise-t-il. Ce regain de sécurité entraîne déjà plusieurs conséquences. Les activités scolaires ont été suspendues. Les structures sanitaires sont également affectées. Depuis ce mardi, des équipes composées de sécuristes, de militaires des FARDC et des jeunes volontaires procèdent à la récupération des corps des personnes tuées dimanche par les ADF dans plusieurs villages. Toutefois, certains corps n'ont pas pu être ramenés, les rebelles ayant piégé les dépouilles avec des engins explosifs aux artisanaux, indiquent des sources locales. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilet, Radio Capi.
Plusieurs jeunes actifs sur différents réseaux sociaux se sont penchés sur la lutte contre la désinformation genrée et le cyberharcèlement hier à Kinshasa. C'est d'ailleurs le thème de cette rencontre de concertation et d'engagement des jeunes activistes, influenceurs et créateurs de contenu organisés par la Division des Affaires Politiques de la MONUSCO en partenariat avec le ministère de l'Économie Numérique et les ONG partenaires. Notez que ces réflexions se clôturent aujourd'hui. Pour vous aider à mieux comprendre ce sujet, je vous propose de suivre ce reportage d'Élise Cavira.
Une cinquantaine des jeunes actifs sur les réseaux sociaux ont décidé de s'outiller pour lutter efficacement contre ces fléaux qui gagnent du terrain dans notre société. À cette occasion, le représentant du ministre de l'Économie numérique, M. Maneno Tchouma Junior, a fait appel à la conscience de tous les participants et les a invités à se joindre à la lutte contre la désinformation genrée et le cyberharcèlement. Pour sa part, Ravaneline Toumba, l'une des intervenants et journaliste fact-checker au sein du média communautaire Baloba Kitchek, nous cite quelques moyens de vérification des informations.
Avec Google Lens, il nous propose les premières personnes qui ont publié l'information. Nous avons par exemple Hive Moderation. Nous avons aussi Tinai, un outil qui permet justement de remonter jusqu'à la première personne qui a publié l'image.
Ben Chikangu, l'un des participants, nous partage son point de vue au terme de cette première journée.
J'étais toujours censuré par des règles Facebook et autres, mais cette fois-ci, je crois que après cette formation, je me sens mieux outillé et maintenant capable de faire face à tout ce qui est vérification d'informations.
Pour finir, la présidente de l'organisation Bisobasi Telema, Elsie Lotendo, a rappelé à l'assistance qu'il est possible de sensibiliser sans relayer les informations, images ou vidéos visant la désinformation genrée et le cyberharcèlement.
Notons enfin que la RDC ouvre ce mercredi un atelier de 2 jours pour réfléchir et lancer les bases de l'installation au pays d'un système plus efficace d'alerte précoce contre les risques de catastrophes. L'annonce de cet atelier a été faite hier mardi à Kinshasa, conjointement par le vice-premier ministre de l'Intérieur et le chef du bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes dans le monde. Ce dernier est arrivé hier en RDC pour une visite de travail de 4 jours dans la capitale congolaise. Écoutons le vice-premier ministre de l'Intérieur de la RDC expliquer la situation actuelle du système national d'alerte contre les catastrophes et l'idéal à atteindre rapidement à court terme. Jacques Chabani, au micro de Dona Madimba.
Jusqu'à présent, le gouvernement se comporte de manière à ce que, au cas par cas, événement par événement, il soit mis en place une chaîne de solidarité de prise en charge. Généralement aussi, nous élargissons notre action en faisant appel à solidarité aux différents partenaires techniques et financiers pour un accompagnement. Il y a plusieurs institutions qui nous accompagnent. Et l'objectif est d'arriver à ce que les concitoyens concernés par cette catastrophe-là se retrouvent dans des conditions qui leur permettent non seulement de résister à la catastrophe, à la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent, mais aussi à se relever et à pouvoir, dans la communauté, reprendre leur vie normale et poursuivre le cours de leur vie.
Actualité internationale.
Le gouvernement espagnol va régulariser les travailleurs sans papier. La mesure a été annoncée hier mardi. Ce processus s'adresse aux ressortissants étrangers qui auront séjourné en Espagne pendant au moins 5 mois avant le 31 décembre 2025. Les demandeurs d'asile qui auront déposé leur demande avant le 31 décembre 2025 pourront également en bénéficier. Une autre condition essentielle est de ne pas avoir de casier judiciaire. Les personnes participant à ces processus et qui remplissent les conditions pourront obtenir un permis de séjour en Espagne d'une durée initiale d'un an. La décision concerne entre 500 000 et 800 000 personnes. Beaucoup sont des immigrants latino-américains ou africains.
L'invité.
27 janvier 2025, 27 janvier 2026, cela fait une année depuis que la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est sous l'occupation de la rébellion de l'FC 123. Un an après cette occupation, la ville reste paralysée et ses habitants dispersés. Les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce mardi 27 janvier ont exposé leurs opinions au sujet de cet anniversaire. On les écoute au micro de Guy Maté.
Bonjour, Karline Zanzoukasivita, vous êtes députée nationale, élue des Beni Territoires, vous êtes gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Quelle est votre lecture de la situation socio-économique un an après l'occupation de la ville de Goma par l'AFC M23?
Au-delà de toutes les conséquences évoquées ici, fermeture de l'aéroport, situation humanitaire critique, il faut aussi ajouter que nos ressources minières financières sont en train d'être pillées par les Rwandais. La population, elle est soumise aux impôts et taxes pour contribuer malheureusement à l'agression. Il faut avouer aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit dans les sauts qui nous a été balancé, la population est soumise à la loi des armes. Il n'y a ni juge, ni magistrat, ni police pour réguler la situation. Ce qui explique la terreur, la violation des droits humains, les tortures n'en parlent pas, parce que les informations de cette partie-là font état des exactions, les tueries, l'enrôlement de jeunes dans les forces combattantes des rebelles. Mais il faut aussi avouer que toutes les grandes activités économiques, que ce soit à Goma, que ce soit dans la ville de Bukavu, que ce soit dans les grandes agglomérations, sont fermées à la suite, effectivement, de cette rupture entre Kinshasa et Goma. Beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup d'opérateurs économiques ont fui la ville. Aujourd'hui, la population de cet espace vit dans la précarité la plus totale.
Merci, Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente du GENEC RDC ASBEL. Vous êtes de la société civile. Dites-nous, quel est le quotidien des habitants de Goma 12 mois après l'arrivée des rebelles dans cette ville?
C'est toujours difficile de parler du quotidien des habitants de Goma, parce qu'en réalité, les habitants de Goma et toutes les zones occupées par l'ennemi ne vivent plus. Les habitants survivent.
Vivotent.
Voilà, ces combats pour la survie peuvent être imaginés de quelle manière dont ces gens sont en train de vivre. Je passais 4 jours, Monsieur Guy, en tant qu'ancien porte-parole de la nouvelle société civile et président du Parlement de jeunes des 7 provinces.
Parce qu'on rappelle que vous étiez dans la ville de Goma quand la ville était tombée.
Je suis sorti 2 jours avant.
Ah, 2 jours avant.
2 jours avant.
Il y avait déjà la tension, on sentait...
La tension était très forte.
Oui.
Les activistes avertis savaient déjà que la ville n'était que sur le bout de fil et que pendant les 4 jours d'offensive dans la ville, quand on nous avait déjà promis que la ville ne tombera pas par les forces onisiennes, quand toutes les communications gouvernementales avaient déjà dit que tout est mis en place pour que cette ville ne soit pas sous contrôle, mais pendant 4 jours, j'ai reçu des appels de famille où parfois on vous dit « Mon époux est en train de saigner, on ne sait pas comment évacuer. » Et après quelques minutes, on vous dit qu'il a succombé. Donc, on a passé 4 jours où il y a eu coupure du courant. Il y a eu également coupure de connexion dans cette ville. Et vous savez, dans une guerre pareille, trop de choses se passent dans cette obscurité. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que là où on devrait partir, une année après, est-ce qu'on nous a dit la vérité sur ce qui s'est passé à Goma? Jusque là, la vérité n'est pas encore dite. Après une année, on nous dit pas pourquoi on n'arrive pas à trouver une stratégie salvatrice pour ces peuples-là, qui n'a plus ni des coopératives, ni des banques. C'est quand même grave qu'on puisse dire que nous avons été au bout de toutes les idées fertiles pour qu'on trouve une solution à cette problématique.
Merci Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Comment vous analysez la situation socio-économique de la population dans la ville de Goma depuis que cette ville est contrôlée par l'AFC M23?
Quand on essaie de regarder dans l'ensemble, vous allez vous rendre compte que effectivement c'est une situation humanitaire qui nécessite de pouvoir réellement avoir des réponses claires par rapport aux préoccupations de la population. La population, elle veut quoi? La population, elle veut un, elle veut la paix, ce qui veut dire que non seulement elle veut la paix, elle veut surtout vivre dans des conditions de vie acceptables, ne pas se lever le matin, savoir si on peut aller travailler ou ne pas aller travailler, ne pas se lever le matin pour savoir si son enfant est malade ou ne sera pas le soigner, ne pas se lever le matin pour dire que non, on ne sera pas mangé, etc., etc. Toute cette population est en demande de ça. Il faut aussi l'avouer, dit aussi, qu'elle est abandonnée par l'État central. L'État central n'a pas véritablement apporté des réponses à toute une série de questions.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci Guimaté, émission Dialogue en Congolais à réécouter en intégralité sur www.radiocapi.net. Merci à vous qui venez de suivre ce journal, il a été préparé par Lievin Bunga et Richard Junior Kamunga. Passez une excellente journée à l'écoute de la fréquence de la paix.